Marguerite Peeters, vous avez fondé un institut en Belgique, l'Institut pour une dynamique de dialogue interculturel. Le cœur, ou disons le centre d'intérêt principal qui anime cet institut, c'est la nouvelle éthique mondiale, ainsi que ses défis pour l'Église.
Pour comprendre de quoi je parle, il faut remonter à la date historique de 1989, qui était la chute du mur de Berlin, qui a été suivie immédiatement par l'organisation d'une série de grandes conférences internationales par l'ONU de 90 à 96 pour construire un nouveau consensus mondial sur les normes, les valeurs, les priorités de la coopération internationale pour l'ère nouvelle qui s'ouvrait.
Donc quand vous dites après la chute du mur de Berlin, c'est-à-dire il y a 20 ans. Vous avez vu en tant qu'observatrice, vous avez perçu là ce changement.
C'est-à-dire que j'étais journaliste à l'époque et j'ai participé à ces grandes conférences de l'ONU. Ce qui m'a frappé immédiatement en y participant, c'était l'introduction d'un nouveau langage. Alors je donne des exemples. Développement durable, droit des enfants, bonne gouvernance, qualité de la vie pour tous, santé de la reproduction, égalité des sexes, gender, etc. J'ai identifié en réalité des centaines de nouveaux mots.
Oui. Des nouveaux mots qui, apparemment, sont des mots tout à fait sans danger, quand je vous entends avec développement durable, par exemple.
C'est-à-dire qu'effectivement, donc ces nouveaux mots ont fait l'objet d'un nouveau consensus à ces grandes conférences de l'ONU. Et ensuite, en quelques années de temps, ils se sont répandus comme une traînée de poudre partout dans le monde. Si on va dans le village africain le plus reculé, on parle de qualité de la vie. Si on va au département d'État à Washington, la qualité de la vie est un paradigme central, ou à la communauté européenne, ou en Asie, partout, ce nouveau langage s'est imposé. Il y a une dynamique dans ce langage qui conduit à la transformation des cultures, c'est-à-dire que ce langage exprime une nouvelle éthique. Alors pendant des années, je me suis intéressée à l'étude, l'analyse, le discernement de cette éthique pour essayer de comprendre ce qu'elle cache, parce que ce n'est pas si évident que ça de le comprendre.
N'importe qui entendant ce concept, une nouvelle qualité de vie, la qualité de la vie, ce n'est pas forcément un concept sur lequel on va s'arrêter de façon réfléchie ou pour distinguer s'il y a quelque chose d'ambigu dessous.
La caractéristique principale de tous ces nouveaux termes, à mon avis, c'est l'ambivalence, c'est-à-dire qu'on rien n'est blanc ou noir. Cependant, ayant participé à ces grandes conférences de l'ONU, j'ai interviewé les experts qui ont forgé ce langage et j'ai donc pu identifier le système idéologique sous-jacent. Ce qui est certain, c'est que ces mots ne sont pas sans danger. Par exemple, vous parliez de qualité de la vie. Le danger de ce concept est qu'on distingue la vie qui a une qualité de celle qui n'en a pas. Alors par exemple, les malades en fin de vie, qui ont une vie misérable, qui sont dans la souffrance, selon la nouvelle éthique, cette vie n'ayant plus de qualité ne vaut plus la peine d'être vécue. Et donc, il y a une espèce d'eugénisme caché dans ce concept. Ou alors, si on connaît l'histoire du développement durable, qui paraît tout à fait un concept de bon sens, l'histoire, c'est que ce concept a été forgé dans des milieux socialiste, Madame Gro Harlem Brundtland, qui était la vice-présidente de l'Internationale socialiste, a vraiment introduit ce concept dans le langage international dans les années qui ont précédé la série de grandes conférences de l'ONU. Et là aussi, c'est un concept qui est lié à toute une éthique de la durabilité. Et si on prend une perspective chrétienne, nous ne sommes pas faits pour durer, nous sommes faits pour une vie éternelle. Bien sûr, nous devons aussi durer, mais dans la mesure où l'éthique de la durabilité se substitue ou se met au-dessus de l'éthique judéo-chrétienne qui est ouverte à la transcendance, à la vie éternelle, et devient un absolu, ce qui est une tendance forte de la nouvelle culture, alors il y a un danger, parce qu'il y a une éthique laïque, laïciste, qui prend le dessus sur cette ouverture à la transcendance et l'éthique judéo-chrétienne.
Donc vous disiez que vous aviez d'abord, dans un premier temps, été à ces conférences de l'ONU.
Alors j'ai participé donc comme journaliste, ne connaissant rien, étudiant le phénomène du nouveau langage, de cette nouvelle éthique. J'ai patiemment et assez laborieusement pendant des années interviewé ces experts. Et petit à petit, j'ai vu ce qui reliait ces concepts entre eux. Ce ne sont pas des concepts indépendants les uns des autres. Nous faisons face à un tout. Nous faisons face à une nouvelle éthique, à un système intégré de nouvelles valeurs. Et alors petit à petit aussi, j'ai vu le lien entre cette éthique et ce qu'on appelle, sans savoir toujours ce que c'est, la postmodernité. Et j'ai compris que tous les nouveaux paradigmes étaient en réalité postmodernes, c'est-à-dire que l'Occident est un peu en fin de civilisation, la civilisation moderne, où on croyait à la croissance exponentielle, au progrès, on avait confiance dans les certitudes scientifiques, on croyait à la souveraineté nationale, à l'État-nation, etc. Toutes ces valeurs-là, de la modernité, vous en avez aussi foi en la raison, sont en fin de course, elles sont déjà mortes. Et ces concepts de gouvernance mondiale, de liberté de choisir en dehors de toute contrainte, s'opposent à la rationalité de la modernité. Et donc nous vivons déjà, sans nous en rendre compte, dans une nouvelle culture qui est postmoderne.
Le défi de votre institut, c'est d'arriver à nommer ces défis, à discerner, à mettre un nom sur ces ambivalences.
Le défi de mon institut, c'est effectivement de discerner, aussi de discerner les opportunités de la postmodernité. Parce qu'il y a deux tendances, à mon avis. La postmodernité déconstruit deux systèmes. Donc elle a tendance à déconstruire la tradition judéo-chrétienne, puisque, je dis cela en passant, mais de ce nouveau langage sont absents un certain nombre de mots qui appartiennent à la tradition judéo-chrétienne.
Lesquels ?
Le mot « vérité », on ne trouvera pas dans les documents des organisations internationales, des ONG. Le mot vérité est vraiment antithétique de la nouvelle éthique qui célèbre la liberté de choisir. Donc elle est contre tout carcan normatif, qu'il vienne du dogme, de la révélation, des définitions claires, de la loi. L'individu doit avoir la possibilité de choisir son interprétation des mots, son système de valeurs, ses opinions, etc. Il n'y a pas une vérité. On doit pouvoir choisir sa vérité. Le mot « la vérité », « la famille », pareil. On ne parle plus de la famille, on parle de la famille sous toutes ses formes, c'est-à-dire les familles reconstituées, les couples homosexuels, lesbiennes, les mères célibataires, pour essayer de célébrer la diversité des formes de famille. Toutes ces formes de famille étant égales selon la nouvelle éthique. Il n'y a plus de hiérarchie, la nouvelle éthique est horizontale. Il n'y a pas de bien et de mal. Donc c'est vraiment le choix individuel qui est la valeur suprême de la nouvelle éthique.
Et vous êtes invitée pour le Synode de l'Afrique comme auditrice libre. Quelles sont les perspectives avec lesquelles vous allez participer à ce synode?
J'ai la grâce, la joie depuis quelques années de connaître l'Afrique. Depuis 2003, je vais assez fréquemment en Afrique. Et j'ai vraiment découvert là un potentiel culturel, humain, spirituel pour justement inspirer au cœur de la nouvelle culture mondiale, une recherche de ce qui est vrai, de ce qui est bien, et aussi une communion, parce que les cultures africaines ressemblent par certains aspects à la nouvelle culture postmoderne, parce qu'elles sont consensuelles, mais c'est un consensus complètement différent du consensus postmoderne occidental, qui est fermé à la transcendance, qui est fermé à la recherche de la vérité, qui ne recherche pas le bien de la communauté, qui est en fait un fruit de l'individualisme occidental. En revanche, dans les cultures africaines, l'amour est à sa juste place, parce qu'en Occident, l'amour n'est plus vraiment un thème culturel depuis longtemps, en raison du rationalisme occidental de la modernité. On a mis le cœur, l'amour de côté, alors que l'amour est encore un moteur culturel en Afrique. J'ai l'intime conviction que les cultures africaines, l'Église en Afrique, ont aujourd'hui une mission à remplir dans le monde et dans l'Église, une mission particulière, parce qu'ils sont tellement profondément attachés à la vie, à la famille, à la communauté, à la maternité, qui ont été déconstruits en Occident et que l'Occident essaye maintenant d'imposer à l'Afrique avec des moyens financiers puissants, des pressions politiques auxquelles il est difficile de résister. Mais la force de l'Afrique, ce sont les hommes et les femmes africains. Les Occidentaux doivent vraiment ouvrir leur cœur et leur intelligence au don que Dieu a fait à l'Afrique.
Par exemple, le concept de gender, comment est-ce qu'il est perçu en Afrique?
Alors, il est déjà omniprésent. C'est un concept qui est né dans les années 70, qui considère que la maternité, l'hétérosexualité, la complémentarité homme-femme sont des constructions sociales qu'il faut déconstruire pour permettre à la femme d'accéder à l'égalité de pouvoir social avec l'homme.
C'est-à-dire qu'on ne naît pas une femme, mais on le devient.
Oui, voilà. Donc c'est Madame de Beauvoir qui est en partie responsable de cette déconstruction qui est maintenant devenue une norme mondiale. Ma perspective d'avenir maintenant, c'est de transformer les informations que j'ai pu recueillir auprès des experts en matériaux didactiques pour répondre aux besoins de formation qui me parvient d'un peu partout, pas seulement d'Afrique, mais d'autres régions du monde, et de travailler à une réflexion plus positive pour discerner ce qui, dans la postmodernité, pourrait être providentiel. Parce que par sa déconstruction de certains abus de la modernité, la postmodernité nous offre une possibilité de revenir à ce que la modernité a déconstruit, par exemple justement l'amour. Je disais que le rationalisme occidental a complètement marginalisé l'amour, la gratuité. Il faut réintroduire la gratuité en politique, dans la culture. Et c'est ce que la postmodernité nous permet de faire si nous le discernons. Il y a une nécessité pour chacun de ne pas être suiveur, manipulable, car nous sommes gouvernés plus que jamais par des experts. Donc, dans tous les domaines, que ce soit le changement climatique, les droits des femmes, l'éducation des enfants. En réalité, les politiques sont déterminées par des minorités et il faut qu'il y ait un réveil de chacun, que chacun exerce ses responsabilités et s'auto-détermine.